effectivement du rôle des juridictions, et on va en parler pour cette dernière intervention sur effectivement quel est le rôle et comment s'organisent les juges spécialisés dans la criminalité numérique, ce qu'on appelle la cybercriminalité. Et c'est Myriam Kemener qui va nous en parler, magistrate, procureur adjoint au tribunal de grande instance de Créteil, et qui est experte juridique pour le Conseil de l'Europe, qui là aussi est à la fois chargée de cours de master spécialisé et auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet. Merci.
Je vous remercie. Tout d'abord, merci à Irène Bouana et William Gilles de m'avoir convié à ce colloque. Je regrette de ne pas avoir assisté à cette journée. Donc, très rapidement, c'est vrai que, dernière intervention, je comprends que l'attention baisse un peu. Je voulais simplement dire que quelques points. C'est vrai que le numérique est très intéressant pour les procédures judiciaires, notamment comme dans le cadre de la recherche des preuves. Et maintenant, dans la plupart de nos affaires qui ne sont pas en lien avec la cybercriminalité, mais des affaires criminelles ou délictuelles, j'ai la charge d'un service criminel, où de plus en plus, on voit apparaître des éléments de preuve numérique. Il m'est arrivé récemment, lors de réquisitions en tant qu'avocat général devant la cour d'assises, compte tenu de la tournure de Prunelle et, je dirais, les débats, j'ai fait grand 1 le meurtre, grand 2 l'environnement numérique. Et ça a permis en appel d'avoir 3 ans de plus, alors que les infractions de délit connexe n'avaient pas été retenues. Alors, voilà le problème. C'est vrai que la justice est confrontée, comme l'ensemble des acteurs, à des problématiques liées au cybercrime et au réseau numérique. Or, il n'y a pas de définition de la cybercriminalité. Donc, jusqu'à présent, moi, je suis venue un peu par hasard à piloter un groupe de travail sur Internet et mineurs il y a 10 ans. Et au pénal, il n'y a toujours pas de magistrat vraiment spécialisé. Alors, comment ça se passe ? Souvent, les affaires liées à la cybercriminalité sont rattachées aux services qui traitent des affaires économiques et financières. Le problème, c'est que la cybercriminalité, je ne vais pas reprendre la définition, c'est à la fois les infractions strictement informatiques et les infractions classiques, mais démultipliées par le recours au réseau numérique et les infractions de contenu. Finalement, on se rend compte que la cybercriminalité est devenue un contentieux transversal. Et donc, tout n'est pas lié à la cybercriminalité, mais on a un certain nombre d'affaires qu'on peut inclure dans une forme de criminalité organisée. Et là, par contre, le législateur a prévu notamment la création des juridictions interrégionales spécialisées. Alors, j'ai mis un nouveau défi par la justice. Effectivement, on a de plus en plus d'affaires extrêmement importantes avec des enjeux. C'est ce que je tente de démontrer depuis hier, parce que je suis arrivée simplement assez tard, parce que je dirige la session de formation continue à l'école de la magistrature à Paris, où on a effectivement essayé de faire peur aux magistrats en soulignant les enjeux qui sont non seulement économiques, des préjudices de plus en plus importants quand une entreprise se fait bloquer son serveur pendant une semaine ou se fait racketter. Certaines petites entreprises, d'ailleurs, préfèrent payer que se faire bloquer leur serveur. C'est des préjudices conséquents qu'il faut mesurer. Il y a également toutes ces affaires, notamment attaques. On a même eu l'attaque, d'ailleurs, de sites gouvernementaux, Bercy. Enfin, c'est tout l'environnement des acteurs économiques est concerné par ces problèmes. On a aussi des enjeux politique, on l'a vu avec le printemps arabe et tout ce qui s'est passé. Et il y a également des enjeux de santé publique. Je pense par exemple à la contrefaçon de médicaments largement écoulés par Internet. Donc voilà, on est confronté à ça et on est en train de s'organiser progressivement. Alors déjà, on n'a pas de définition de la cybercriminalité, mais là j'ai résumé d'un slide. Vous aurez d'ailleurs ces éléments. On a énormément d'infractions qui concerne en fait la cybercriminalité. Je pense à des affaires d'escroquerie en bande organisée. On en a pas mal, donc on a un problème de cartographie du phénomène parce que elles sont ciblées comme une escroquerie en bande organisée, mais en réalité, derrière cette infraction pénale, c'est en fait une affaire de cybercriminalité. Donc tout le champ pénal est concerné. J'ai rajouté l'usurpation d'identité en ligne. On vient d'avoir une condamnation, justement, c'était des faux profils via Facebook dans un environnement professionnel. C'est un webmess qui avait usurpé l'identité d'un salarié dans une entreprise. Et on aboutit, on a eu une condamnation récemment à Créteil à 3 mois d'emprisonnement avec sursis. On a le projet de texte, je ne sais pas ce qu'il deviendra, de secret des affaires, mais là aussi, c'est, on l'a évoqué tout à l'heure, l'irréputation, l'atteinte au patrimoine informationnel dans l'entreprise. Donc là aussi, enfin moi personnellement, je suis plutôt pour la répression du vol d'éléments informationnels, le vol de biens immatériels. Ce serait plus simple et compréhensible pour des praticiens du droit comme les magistrats. Voilà, donc c'est un nouveau champ infractionnel. Maintenant, et certains magistrats pensent encore que c'est un peu virtuel, donc moins grave. Alors qu'en fait, on a aussi très récemment des affaires de fraude à la téléphonie mobile où des escrocs créent des entreprises et gagnent beaucoup d'argent sur ce système. Et cet après-midi, je faisais intervenir quelqu'un, donc un prestataire, qui a mis en place des groupes de travail pour détecter les nouvelles fraudes à la téléphonie mobile. Alors au niveau organisation judiciaire, bon, j'ai mis en matière civile, je pense à propriété intellectuelle, on tend à une spécialisation accrue. C'est vrai que maintenant, c'est dans les textes, mais en matière pénale, ce n'est pas encore le cas. Donc, on n'a aucun parquet, à part le parquet de Paris, qui a mentionné dans son organigramme cette notion de cybercriminalité. C'était à l'époque, Monsieur Marin avait introduit, le procureur de Paris de l'époque avait introduit, d'ailleurs c'est pas anodin, criminalité astucieuse, c'est-à-dire les escroqueries, les affaires financières, et également la cybercriminalité. Mais c'est assez empirique, et en région parisienne, qu'on appelle le Paris-Versailles, on a une concentration d'affaires et de population, nous avons institué des magistrats référents au parquet. Donc c'est des collègues qui sont un peu les interlocuteurs repérés. Le problème, c'est encore, je dirais, aléatoire. Quand le magistrat référent très impliqué quitte la juridiction, c'est pas forcément évident d'avoir un magistrat référent qui lui succède, ou alors on va avoir un nom sur le papier, mais ça ne correspond absolument à rien. Alors dans la juridiction où je suis depuis quelques mois, il y a une jeune collègue très motivée qui va d'ailleurs intervenir pour la première fois à l'école de la magistrature dans le cadre pour justement essayer de diffuser cette bonne pratique au plan national. Mais je pense que tous les travaux qui ont été menés de cette façon sur les cours d'appel de Paris et Versailles pourra donner lieu à des orientations de politique pénale. Or là, il y a une particularité. Pour l'instant, nous n'avons aucune orientation de politique pénale. Et bon, il y a tout un chantier à mener en matière de lutte contre la cybercriminalité. Nous avons des circulaires qui sont des commentaires des textes. L'ARGEL a été créé en 2010. On a eu une circulaire qui est un peu une paraphrase de la loi, mais pas vraiment de méthodologie pour traiter ce problème. Alors c'est ce que j'évoquais à l'instant. Nous avons travaillé. Alors on a des contacts ponctuels et c'est plutôt des magistrats captivés par le sujet qui sont contactés pour mener des travaux. Un exemple très concret, récemment, j'ai été auditionnée par la commission des lois du Sénat en matière de cyberterrorisme. Donc j'ai remis un document qui normalement doit être en ligne sur le site du Sénat. L'an dernier, il y a eu une mission, c'était l'Assemblée nationale, sur la révolution numérique et la protection des droits des individus. Là aussi, certains parlementaires, ou dans le cadre de missions, contactent des experts ou des magistrats qui sont assez spécialisés, mais ça demeure encore une démarche personnelle. Alors, on a mené ces travaux, on a élaboré des outils méthodologiques et notamment une fiche sur toute la problématique de la compétence territoriale. Hein. Je pense qu'il va falloir clarifier les règles de compétence territoriale, parce que parfois les critères sont différents suivant les types de contentieux, et on a parfois des procédures qui ont tendance un petit peu à tourner avant d'atterrir dans la bonne juridiction. Alors, voilà, le magistrat référent, c'est assez nouveau, mais c'est intéressant. Hein. Il exerce, il a un rôle de référent dans la juridiction, d'interlocuteur repéré, comme je dirais, contact avec les services d'enquête spécialisés et de veille juridique. Voilà, alors les juridictions se sont adaptées, mais je dis deux mots, hein, je ne veux pas allonger les débats, sur les juridictions interrégionales spécialisées créées en 2004 par la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. On avait essayé de rajouter cybercriminalité. On l'a eu, ce terme, uniquement employé dans le code de procédure pénale, au niveau du mandat d'arrêt européen qui dispense justement de la double incrimination pour les infractions les plus graves, et dans la liste des infractions les plus graves, nous avons, curieusement, la cybercriminalité. C'est un début, mais bon, à mon sens, insuffisant. Donc, les juridictions interrégionales, il y en a 8 en France, qui traitent des contentieux complexes avec la bande organisée, des trafics internationaux, mais à force d'être spécialisées un peu en tout, hein, bon, c'est un commentaire qui n'engage que moi, je pense que ces juridictions sont devenues quand même quelque peu généralistes. Un bilan qui était paru l'an dernier dans AJ Pénal a répertorié, maintenant c'est même quasiment 60% des affaires traitées par les JIRS concernent les trafics de stupéfiants à dimension internationale. Voilà, donc, et on a quelques affaires de contrefaçon, de médicaments, de cigarettes souvent écoulées via des réseaux Internet, mais je pense qu'il n'y a pas assez de spécificité liées à la cybercriminalité au niveau des JIRS. Voilà, donc c'est ce que j'indiquais. Donc, je suis en plein dans le sujet puisque je suis arrivée précipitamment ici alors que je dirige cette session. Session tout à fait pluridisciplinaire hein, qui a lieu tous les ans. En formation initiale, on fait des conférences ponctuelles. On va en faire une là, l'automne à Bordeaux, à l'École nationale de la magistrature. Et là, actuellement, c'est une formation d'une semaine, mais très opérationnelle, où on prend des cas d'affaires et on propose justement des solutions pour rassembler la preuve numérique. Par exemple, demain matin, très concrètement, je fais une table ronde avec l'ensemble des secteurs spécialisés, y compris en amont du judiciaire, je pense à l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, et à la DCRI, qui a une mission de veille, mais également de plus en plus des affaires judiciaires. Donc on associe aussi des experts, on prend des cas de procédure et je termine par une matinée sur la coopération internationale. Et cette année, je vais associer non pas le Conseil de l'Europe, ce que je fais habituellement, mais Eurojust, qui lance des opérations internationales, beaucoup en matière de pédophilie via Internet, mais va se lancer notamment en matière de contrefaçon en ligne, puisqu'on a de grosses difficultés. Alors, voilà. Ça résume un petit peu mon propos. Depuis 2 ans, et je suis très contente d'ailleurs de participer à ce mouvement, je pense que le milieu universitaire a mesuré les enjeux. Hein, donc il y a évidemment Paris, mais il y a d'autres centres, il y a Troyes, il y a Montpellier hein, qui a créé un DU dédié à la cybercriminalité ouvert aux magistrats. C'est assez récent. Et je pense qu'il faut, c'est un peu ma conclusion, travailler tous ensemble avec l'ensemble des acteurs, autorités indépendantes, secteurs privés qui se regroupent actuellement. On a par exemple l'Union des fabricants, l'UNIFAB, qui lance des groupes de travail, analyse des procédures. J'y suis allée la semaine dernière avec la gendarmerie pour parler justement des sites champignons et de toute cette problématique de la contrefaçon, de la cybercontrefaçon qui se développe de façon vraiment très inquiétante. Donc voilà, il y a le Tout Centre, hein, c'est un qui s'est monté. Il y a également un centre européen qui va être créé en janvier 2013. Il y a toute une dynamique. Et je pense que la justice, c'est vraiment ma conclusion, a toute sa place hein, dans ce mouvement. Et je pense que par contre, ça passe par des orientations de politique pénale et une véritable, même un service dédié. Alors, c'est un peu ma... je rabâche un petit peu cette idée, mais je suis assez tenace, vu mon nom, j'ai des origines bretonnes, et je pense qu'il faut créer au niveau du ministère un pôle numérique hein, qui serait aussi l'interlocuteur et permettrait de faire des actions nationales et internationales, puisque évidemment la cybercriminalité, de plus en plus on a des difficultés à la fois techniques, remonter sur des adresses IP, etc., mais également nécessité de coopérer avec l'ensemble des acteurs, avec les attachés de sécurité intérieure à l'étranger. Et nous avons aussi un réseau de magistrats de liaison à l'étranger. Ça facilite l'exécution, notamment des commissions rogatoires internationales. Bon, je pourrais parler encore très longtemps. Je pense qu'il faut créer des outils procéduraux plus simples que des commissions rogatoires internationales qui sont parfois extrêmement longues, avec des réponses aléatoires. Je pense qu'il faut développer ce qui existe déjà, à la fois dans la convention de Budapest hein, que vous venez d'évoquer, maître, et également aussi c'est transposé dans notre code de procédure pénale, avoir recours à des procédures comme le gel de données hein, qui permet de, en temps réel, d'avoir, de recueillir et rassembler des éléments de preuve. C'est un peu une course contre la montre. Hein. C'est vrai que le temps judiciaire n'a rien à voir avec le temps du web, et je pense qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Voilà, donc je vous remercie, c'est un peu succinct, mais j'ai essayé de vous faire passer quelques idées pour un sujet qui me passionne.
Merci, et je crois qu'on peut dire que vous avez définitivement fait passer un souffle. Et c'est vrai que cette idée de dynamique et de création effectivement d'un travail collaboratif permettant d'agréger tous les acteurs, ce sera effectivement le mot de la fin. Il a beaucoup été question dans cette dernière partie du colloque de gouvernance à trouver. Et cette gouvernance, je crois qu'effectivement, c'est à partir du moment où on se met ensemble les mains dans le cybercambouis, si je puis dire, que l'on peut effectivement arriver à la trouver. Et je vais donc céder la parole à Monsieur Gilles pour la clôture du colloque.